Chapitre 13. Patiemment. Turlure s'était trompé en disant et en s'imaginant qu'il pourrait attendre patiemment que cette femme de chambre lui apportât les matières dont l'analyse déciderait si oui ou non il y avait empoisonnement chez le notaire. Jamais au contraire il n'avait été si fiévreux. Jamais sa femme ne l'avait vu si agité, même au temps de l'affaire Hausseur et Paquet. La nuit qui suivit la visite de Divine, il ne dormit pas et du soir au matin, il se tourna et se retourna en jetant ses bras et ses jambes de tous côtés. Comme il s'était levé avec le jour naissant, sa femme inquiète le chercha et le trouva dans son laboratoire, en train de disposer un appareil bizarre composé d'un flacon surmonté de tubes de verre, dont l'un, effilé à son extrémité, reposait sur une grille pleine de charbon. « Que fais-tu là ? » demanda-t-elle. « Je prépare un appareil de marche pour le faire fonctionner à blanc et m'assurer qu'en cas de besoin, il ne donnerait pas lieu à la formation de taches arsenicales provenant d'une purification incomplète du zinc et de l'acide sulfurique. « Tu crois donc à un empoisonnement par l'arsenic ?»« Je ne crois rien, je me prépare. » À la première heure, il apprit la mort d'un de ses conseillers municipaux et aussitôt il prit son bossuet pour se mettre dans le train, comme il disait, et se donner le ton pour écrire l'oraison funèbre de cet éminent collaborateur qui avait dû ses succès électoraux à son double métier de cabaretier et d'épicier. Mais Bossuet lui-même fut impuissant à provoquer l'inspiration. Tout en lisant, au lieu d'évoquer les vertus civiques de cet éminent collaborateur, il ne pensait qu'à la méthode de James Marsh ou au procédé de Schneider et de Fife, et au lieu de polir ses périodes, il allait étudier ses livres de toxicologie. Certainement, ce discours serait un des plus faibles qu'il eût jamais prononcé, et il devrait veiller à ce que les journaux de Rouen ne pussent pas le reproduire. Cependant, cette mort, qui arrivait si mal à point, eut cela de bon qu'elle lui permit de recourir à certains moyens d'investigation que, sans elle, il n'eût pas pu employer. Comme ce conseiller municipal était le client et un bon client de l'Avopalière, celui-ci assista à son enterrement. Et en l'apercevant, Turlure n'eut plus d'autre idée que d'examiner ses pieds et ses cheveux. Bien que le relevé de l'empreinte des pas laissée dans la terre après la prétendue tentative de vol n'eût donné aucun résultat, Turlure n'avait eu garde de le jeter. Il l'avait, au contraire, conservé avec des centaines d'autres pièces, ne sachant pas si l'occasion ne se présenterait pas un jour de l'utiliser, et, après la visite de Divine, il avait consulté de façon à l'avoir présent à l'esprit. Tant que dura l'enterrement, il ne quitta pas des yeux les pieds de la Vaupalière. 27 centimètres de longueur, 8 de largeur, forme fine, c'était bien cela. Et au cimetière, il manœuvra pour obliger le notaire à marcher dans la terre fraîchement remuée, de façon à venir étudier plus tard l'empreinte qu'il y laisserait. Ce qui nuisit singulièrement au débit de son discours, dont la composition avait déjà été si malheureuse. Mais sa tactique ne réussit pas, et comme il était parvenu à amener la Vaupalière à marcher sur une tombe nouvelle, il éprouva la déception de voir l'empreinte qui avait imprimé le notaire effacée par d'autres. Par bonheur, la Providence, ce ne pouvait être qu'elle, lui accorda une juste compensation. Comme il revenait avec la Vaupalière, en l'entretenant de choses insignifiantes, mais en réalité, en l'étudiant de toutes les forces de son attention pour voir s'il ne constaterait pas en lui quelques-unes des manifestations de l'intoxication arsénicale, le larmoiement des yeux, la rougeur des paupières, l'éruption cutanée, l'aphonie, l'exfoliation épidermique, il eut la joie qui lui donna un coup au cœur d'apercevoir sur le collet de sa redingote un cheveu tombé. S'il pouvait le prendre et le comparer avec la mèche qu'Isidore lui avait apportée et dont il avait conservé une partie soigneusement étiquetée, quelle preuve ne serait-ce pas, au cas où, comme il le supposait, cette mèche aurait été coupée sur la tête de la Vaupalière et non sur celle de Courteuse. Sans doute, le coup était hardi et demandait autant de légèreté que d'audace. Mais aussi, quel résultat important et décisif s'il réussissait. Le souvenir de Tartuffe et le jeu de scène entre Orgon et Dorine, dans lequel celle-ci cueille un cheveu sur l'habit de son maître, le décida. Pourquoi ce qui est bon au théâtre chez Molière, surtout dont il était le dévot, ne le serait-il pas dans la réalité? Tout en causant, il s'arrêta. Puis, fixant son regard sur le collet de la redingote du notaire, Vivement, il saisit le cheveu entre le pouce et l'index gauche et fit le geste de le jeter. Mais il n'en fit que le geste. Refermant les doigts par-dessus le pouce, il le garda caché dans la paume de la main. Surpris de ce mouvement rapide, le notaire le regarda. « Un cheveu !» dit Hurlure en souriant. La Vaupallière eut un moment d'hésitation, significatif pour Hurlure, mais il ne fit pas d'observation et continua l'entretien avec un peu plus de volubilité seulement. Quand ils se séparèrent, Hurlure lui tendit la main droite avec toute l'apparence de la cordialité. « Au revoir, mon cher maître, mes respects à madame, je vous prie. » En rentrant, il fit un signe à sa femme assise à la caisse et elle le suivit dans le laboratoire. « Étale, je te prie, dit-il, une feuille de papier blanc sur mon bureau. » Quand elle eut fait ce qu'il demandait, il posa la main fermée sur ce papier et l'ouvrit. Mais le cheveu ne tomba pas, il resta collé par la sueur dans la paume, d'où il dut le retirer du bout des doigts. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-elle, surprise du soin scrupuleux avec lequel il avait procédé à cette opération. Il la regarda d'un air triomphant et à voix basse. « Tu vois, dit-il, un cheveu, un simple cheveu. Mais si fin qu'il soit, il aura la force cependant de coucher la Vaupallière sur la guillotine. »«
Tu es fou !»
Il raconta son examen des pieds de la Vaupallière et comment il avait cueilli ce cheveu.
« Tu as osé ?»«
J'ose toujours ce que je dois faire. »«
Mais es-tu sûr que ce cheveu est le même que ce qu'Isidore t'a remis ?»
C'est ce que nous allons voir, je ne l'ai pris que pour faire cet examen. » Il alla à une armoire fermée à clé, sur laquelle était écrit « document » et l'ouvrit. Elle était pleine de liasses rangées par ordre alphabétique. Il prit celle marquée d'un C et, ayant desserré sa sangle, il en tira un petit papier qui portait le nom de Courteheuse et renfermait une assez grosse mèche de cheveux blonds. « Comment font ceux qui ne gardent pas leurs témoins » dit-il. Mais ceux-là n'ont ni l'esprit ni la culture scientifique. À côté de deux cheveux tirés de la mèche, il étala celui qu'il avait cueilli sur la redingote de la Vaupallière. Pour la couleur, la grosseur, la souplesse, il n'y avait aucune différence entre eux, ils étaient exactement les mêmes.
« Eh bien, dit Hurlure.
Deux chevelures ne peuvent-elles pas se ressembler ? Courteheuse était blond.
Erreur capitale, s'écria-t-il. Il n'y a pas dans toutes les races qui peuplent le monde deux chevelures qui soient pareilles pour l'histologie animale. Et si l'œil peut se laisser abuser, le microscope, lui, ne se trompe pas. C'est lui qui va nous dire si nos yeux n'ont pas été victimes de l'erreur, du parti pris si tu aimes mieux. »
Des recherches longues et minutieuses qu'entreprit Hurlure dans un véritable esprit scientifique résulta la conclusion que le cheveu pris sur la redingote et ceux conservés dans le papier avaient les mêmes caractères et que, par conséquent, ils provenaient bien de la même tête.
« Qu'en dis-tu » demanda-t-il à sa femme.
Comme elle ne disait rien, il continua.
« Je ne peux pourtant pas procéder à l'exhumation de Courteheuse pour te prouver que ses cheveux ne sont pas du tout les mêmes que ceux-ci. Et c'est vraiment un malheur que je ne puisse pas aujourd'hui même faire passer une rue à travers le cimetière. Mais cette exhumation sera faite par la justice, alors tu verras si j'ai raison.
Je ne dis pas que tu aies tort pour le passé, il me semble bien qu'il faut au contraire reconnaître que tu as raison.
C'est clair comme le jour.
Mais il n'en résulte pas que tes soupçons soient fondés pour le présent.
Nous sommes d'accord là-dessus. Je t'ai dit que je suspendais mon jugement et je le suspends en effet. Mais ce qui résulte du premier empoisonnement, c'est la création d'une situation telle pour les deux complices qu'en présence de malaises qui sont peut-être naturels, ils s'accusent aussitôt, sans rien savoir, de s'être mutuellement empoisonnés et ainsi se dénoncent.
Par hasard.
Est-ce par hasard? En tout cas, c'est involontairement.
L'admirable, maintenant, ce serait de partir de ce qui est acquis pour les amener à se dénoncer volontairement, à s'accuser et à faire éclater ainsi la vérité.
Te voilà envolé sur les ailes de l'imagination. Mais es-tu sûr que ton point de départ est bon? Ton raisonnement, n'est-ce pas, est qu'ils veulent se débarrasser l'un de l'autre?
Je ne dis pas qu'ils le veulent réellement, mais qu'ils se soupçonnent de le vouloir, ce qui n'est pas du tout la même chose.
S'il en est ainsi, pourquoi ne divorcent-ils pas tout simplement? Comme le divorce entraîne la séparation de biens, le mari se trouverait embarrassé, lui qui n'a rien, de rendre à sa femme la fortune que celle-ci lui a apportée, sans compter qu'il pourrait perdre aussi certains avantages qui lui ont peut-être été faits par contrat de mariage. Voilà pourquoi il est possible qu'il ne veuille pas demander le divorce, et que d'autre part, il s'arrange de façon à ce que sa femme ne puisse pas le demander contre lui. Quand c'est la mort qui dissout le mariage, elle ne produit pas les mêmes effets pour les intérêts matériels que le divorce ou la séparation de corps. Te voilà revenu à ton idée. Il faut bien, quand on envisage une situation, l'examiner sous toutes ses faces. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu complicité pour empoisonner Courteheuse. Ce que nous ignorons, c'est si cette complicité provoque de nouveaux empoisonnements, ou simplement la peur de l'empoisonnement égale chez les deux complices par cela seul que s'étant unis pour se débarrasser d'un mari, ils se savent capables de vouloir se débarrasser aujourd'hui, lui de sa femme, elle de son second mari. Tu me dis qu'ils n'ont qu'à divorcer. Je te réponds qu'ils peuvent avoir intérêt à préférer la mort au divorce. Et comme pour des gens qui ont déjà un crime sur la conscience, quand ce crime est un empoisonnement, celui de tous qui se répète le plus volontiers, il faut admettre que la mort ne leur inspire pas l'horreur qu'elle inspire à d'autres, et conséquemment, leur est plus facile. Voilà où nous en sommes. Pour aller plus loin, attendons la visite de la femme de chambre. Et si elle ne venait pas? C'est qu'il n'y aurait pas empoisonnement ou continuation, ce qui est très possible en présence des menaces échangées, et alors je n'aurais à m'occuper que de la mort de Courteheuse.